It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Le 30 novembre 2016, vers 19h, les Colombiens rejoignent leurs complices dans un hangar près de Bayonne. Dans leurs différents vannes, plus de 700 kilos de cocaïne. Antoine, ses collègues et des agents de la BRI, la Brigade des Recherches et d'Intervention, attendent en planque pour intervenir. C'est la dernière étape de l'affaire B-52 qui a duré un an. Écoutez l'affaire B-52, épisode 8. Donc, les Colombiens viennent de rentrer dans le hangar, votre agent infiltré est sorti, tu donnes le top action, comment ça se déroule? J'imagine que c'est très très rapide.
Ben, moi je donne le top action, donc ce qui était prévu à la base, c'est on avait fait le double des clés pour rentrer dans le hangar des Colombiens, et on devait pénétrer à l'intérieur assez discrètement pour essayer de les surprendre. Seulement, ben, ça s'est pas passé comme ça, puisque la BRI l'entendait autrement. Et il y en a un de la BRI qui a sorti un fusil à pompe et qui a tapé trois fois avec des effraques pour ouvrir la porte. Seulement, ben, la porte elle s'est pas ouverte. Donc même j'avais le double des clés dans les mains, je pouvais pas rentrer. Donc on a dû finir l'ouverture avec le bélier, quoi. Bon, imagine un peu les conséquences. Donc en plus, on savait qu'à l'intérieur, ça s'agitait dans tous les sens. Voilà, finalement, on a quand même réussi à rentrer. Hein.
Et comment ils réagissent les trafiquants à l'intérieur? Ils faisaient quoi à ce moment-là, les 7 Colombiens?
Ben, eux, ils étaient en train de prendre la cam des valises pour la rentrer dans le camion. Donc, imagine un peu le truc. Là, ils entendent du bruit, ça fait du bruit dans tous les sens, donc ils essayaient de prendre la fuite. Seulement, ben, pas de fenêtre, pas d'ouverture, donc ça s'est retourné contre eux. Ils n'ont pas pu bouger. Donc, ben, ils se sont allongés au sol voilà, nous, on a pu intervenir avec la BRI. Je me souviens qu'il y en a même un d'entre eux qui s'est caché dans un carton. Il y avait un petit côté pathétique pour lui. Mais bon, je pense qu'ils ont cru qu'on intervenait un peu comme en Colombie et qu'ils allaient tous se faire fumer. Donc ça, je pense que ça va être un peu le pire moment du monde. Hein. Voilà. Après, ça a duré qu'une poignée de secondes.
Et toi, de qui tu t'occupes?
Moi, je me note le sicario, l'homme de main du cartel. De toute façon, je l'avais dans le viseur, lui, depuis le début. Hein. Mais bon, il était tellement large que j'ai dû lui mettre deux paires de menottes. Je me souviens qu'il avait le visage crispé, il était tout nerveux, les bras tendus. Et en plus, il est beaucoup de force, petit trapu, là. Je pense que s'il l'avait pas bien menotté, il m'aurait boxé comme il fallait. Hein. Pendant ce temps-là, moi, j'ai mes collègues qui sont à côté et qui passent les menottes un peu à tout le monde, le chimiste, le comptable. Donc, c'est marrant un peu de voir ces têtes qu'on a vues un peu pendant un an tout le long se faire menotter à ce moment-là et de les sentir un petit peu. Et tu sais, il y a un petit côté contact qui est assez surprenant même pour nous. En plus, au même moment, le Top Action a réagi un peu partout. Donc, on a nos collègues qui interviennent à Bordeaux au Grand Hôtel. Et on entend que ça se passe bien, qu'ils viennent d'embarquer le neveu d'Escobar, le boss, quoi. Et sa femme. En plus, on a réussi à capter lors des surveillances juste avant qu'il y a une équipe de Français qui était venue un peu au contact des Colombiens. Donc eux, ils se font serrer sur l'autoroute A10, sur la remontée un peu plus haut vers direction Paris. Donc voilà, ça nous fait 12 personnes. C'était un peu la course. Hein.
Vous les emmenez directement au commissariat?
Non, pas immédiatement. En fait, là, on a quand même quelque chose à faire. On a pas mal de travail. Donc on a juste l'instruction de la JIRS de Bordeaux qui gère l'affaire, qui arrive sur les lieux. Et donc pendant qu'il y en a qui commencent à s'occuper des gardes à vue et à notifier les droits aux principaux concernés, là d'autres vident la cam qui se retrouve dans le camion pour qu'on puisse un peu la transposer et puis voir aussi vérifier combien il y a, quoi. Donc on se rend compte qu'il y a 1,134 tonnes de cocaïne, c'est beaucoup plus que prévu. Pour t'expliquer un petit peu, ça représente 10% de la totalité de la coque saisie cette année-là, quoi. Je me souviens, quand on change la cocaïne et qu'on la sort du camion, on se rend compte qu'elle est floquée du taureau de Bayonne. Donc c'était une petite dédicace de la Colombie pour la France, mais surtout ça voulait dire, les gars, on arrive en France. Nous, de notre côté, on fait ça, de l'autre, il y a la notification des droits, donc le juge d'instruction, à ce moment-là, est hyper content, on leur notifie des gardes à vue classiques, hein, avis avocat, médecin, famille, consulat et tout ça. En plus, on saisit 600 000 euros en liquide qui était là, et tu sais, ce fameux bocal qui avait dans, qui était dans le hangar. Donc en fait, il y avait une compteuse habillée et il y avait de l'argent qui était déjà prévu là-dessus. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on quitte le hangar et on s'arrache de la zone commerciale.
Et donc, vous allez au commissariat de Bayonne?
Non, pas vraiment. Là, on prend les bagnoles. Moi, j'ai le Sicario derrière et le bras droit du neveu d'Escobar dans mon Audi A3. Bon, c'est silence radio dans la voiture. Hein. Et puis, le Sicario, lui, il a pas décroché un mot jusqu'à présent. Et là, il commence à dire, et il arrête pas de répéter une phrase. No habla, no contestar. No habla, no contestar. Pas parler, pas répondre. Bon, ça, il me l'a sorti à toutes les sauces pendant des plombes. Donc là, plus après, arrivé à Bayonne, la nuit a été bien commencée. Donc on pouvait pas regrouper tous les membres d'une cartel colombienne dans le même endroit. Et donc on a dû les répartir dans plusieurs gendarmeries du coin. Donc t'imagines un peu la gueule du gendarme à 2h du matin quand il se reprend l'équipe des stupes de Paname qui arrive avec des membres du cartel et qui dit « Hey gros, tu peux me les garder, s'il te plaît, pour la nuit ?» Ça tirait un peu la gueule, mais bon, ils ont assuré quand même les collègues. Après, c'est un peu étrange, un peu comme sensation pour eux, hein. Et c'est un moment hyper redouté. Quand ça arrive, il y a toute la pression qui retombe. C'est un peu la même chose pour nous. Et voilà. Puis en plus, là, ça y est, c'était concret, c'est terminé, c'est fait, quoi.
Comment tu te sens, toi, à ce moment-là?
Ben, nous, on est hyper contents. Après un an, c'est le finish. On nous a tapé dans les mains. Le juge était super content. Je sais que ça s'est bien passé du côté de la DEA à Miami, en Colombie, à Chicago. Enfin, un peu dans tous les pétages qui étaient prévus, même aussi en Espagne. Tout est bon. Ils ont plusieurs gardes à vue. Ils ont les objectifs qui étaient recherchés. Ils ont réussi à saisir des comptes bancaires. Enfin, je pense que c'est une opération qui s'est vraiment déroulée comme sur du papier à musique, sauf le pétage de la porte du hangar. Voilà. Bon, moi, je suis hyper crevé. Enfin, je pense que tous mes collègues, on est vraiment morts et on se retrouve dans un hôtel un peu de fortune. Voilà, je pense qu'il est, je crois, 4h30, 5h quand on rentre et on sait qu'on doit se lever à 7h. C'est un peu dur.
J'imagine qu'ils vont être interrogés. Comment ça se passe et où ça se passe?
Ben, le lendemain, on les récupère, on les sort des gardes à vue des gendarmes, là. Et donc, le 1er décembre, on les amène au commissariat de Bordeaux. C'est le gros central. Et donc, pour nous, c'est beaucoup plus simple de travailler là-bas. On a 2 heures de voiture, on récupère la cam, on embarque tout le monde. Et la gros cortège direction Bordeaux, Tourota 10. On arrive à Bordeaux et on place nos 12 mecs en garde à vue. En vrai, on envahit carrément l'espace de la PJ bordelaise. Mais bon. C'est comme ça, c'est les stups, c'est la compétence nationale, donc ils n'ont pas le choix et puis ils nous font un peu de place. Bon, en vrai, les collègues, ils assurent. Mais ça se passe toujours très bien d'ailleurs. Moi, au départ, je suis chargé d'interroger le bras droit du neveu d'Escobar, mais bon, comme il parle pas beaucoup, je me retrouve à tourner un petit peu dans les bureaux et à faire le tour des pièces. Donc à un moment, j'ouvre un bureau, c'est un collègue qui entend le Sicario et là, je l'entends encore dire « No habla, no contesta, no habla, no contesta ». J'en pouvais plus, son « No habla, no contesta ». En plus, jamais il a donné son nom, quoi. Donc il a fallu qu'on gratte un petit peu du côté Colombie, donc on l'a eu, son nom. Et tant pis pour lui. Et d'ailleurs, il était recherché à mort. Donc ça a permis un petit peu d'étoffer le dossier, donc tant pis pour lui. Et après, je passe aussi dans le bureau et je tombe sur le neveu d'Escobar qui est en audition, mais j'avais vraiment envie de le voir un peu discuter. Et là, le gars, très classe, bien, une attitude incroyable, toujours son charisme un peu qu'on avait vu depuis le début et qui devenait un peu pour nous légendaire. Donc très intéressant de voir tout ça. Et après, c'est beaucoup de traduction. On travaille aussi avec des interprètes, tu vois, à ce moment-là. Et ce qui est cool, c'est qu'on avait choisi des interprètes en amont. Et c'est des gens qui connaissaient très bien la Colombie, qui connaissaient très bien un peu la géopolitique et les problèmes en interne. Donc ça nous a aussi aidé, nous, d'avoir un petit peu ce contraste-là. Il n'y avait pas que l'écho de la DEA. Et comme on n'avait pas, nous, d'homologues colombiens sur place, on s'est servi de ces interprètes-là. Donc on a bien avancé, quoi. C'était un peu fatigant comme façon de faire, mais voilà. Bref, pendant ces 4 jours, on a énormément de taf et ça fait 1 an qu'on est dessus, donc là, tu vois, faut tout donner.
Mais du coup, vous faites pas un petit truc pour fêter ça avec les collègues?
Bon, tu vois, le premier, quand on arrive, on s'autorise quand même un petit resto, c'est la célébration, c'est champagne, donc on se retrouve à tous les collègues, on prend un peu des collègues de Bordeaux aussi avec nous et on se fait une petite sortie au resto, mais bon, je te dis, on a bu un verre et on est rentré parce que le lendemain, il fallait se lever à 6h. Et on sait qu'encore derrière, on a 4 jours de garde à vue à gérer, donc faut rester pro jusqu'au bout. Donc au bout de ces 4 jours, après, on a escorté nos 12 gars, nos 12 trafiquants en prison. Là, pareil, hein, 12 Colombiens du même cartel, tu les mets pas dans la même tôle, donc on les a dispatchés dans plusieurs établissements, ils y sont encore aujourd'hui d'ailleurs.
Et il n'y a pas de demande d'extradition, ils restent en France?
Non, ils ont agi sur le territoire français et il n'y a pas eu de demande côté Colombie, donc ils restent dans l'Hexagone. Je pense que ça arrange tout le monde, en fait. Les USA, comme la Colombie. Comme ça, Escobar est hors d'état de nuire.
J'imagine que vous rentrez chez vous. C'est comment l'accueil au boulot à Nanterre?
Bah avec toute cette fatigue et tout, donc l'euphorie est là, hein, en vrai. Mais bon, c'était assez dingue. On est hyper félicités. Sur place, on a nos chefs qui nous attendent, donc ils sont super contents. On a la visite du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est présent. C'est la première grosse opération franco-colombienne, US et espagnole de cette ampleur qui réussit, qui fonctionne en plus très très bien. Donc on a prouvé que on n'était pas dans un blockbuster américain, que ce genre de pétage se produisait en France et qu'il marchait très bien aussi. Avec les collègues, en plus, on a fait hyper bien avancer l'enquête américaine et l'enquête colombienne et aussi espagnole. Il y a eu un vrai échange entre nos services. On n'était pas des sous-fifres.
Et côté couple, comment t'es accueilli par ta femme ce 4 décembre 2016 ?
Par des papiers de divorce. Je suis dégoûté. Je rentre, elle m'annonce quoi ? On se sépare. J'ai même mes affaires, elles sont au milieu du salon. Je viens de passer un moment de ouf d'un côté. Je rentre chez moi, c'est dégueu.
Est-ce que l'affaire B52 a mis un coup d'arrêt à l'importation de cocaïne en France ?
Le constat de cette année d'enquête nous a démontré que la lutte contre les stupes est sans fin et sans faille. Mais chez nous, les stupes, tu vois, on y croit, donc on est assez pugnace en la matière. Quelques temps plus tard, on s'est remis sur une opération de même type, sur le même schéma, qui nous a permis de démanteler un trafic encore plus important, qui a touché des pays un peu méconnus pour nous en France, comme la Grèce ou la Turquie. On a réussi même à saisir une quantité plus importante, il y avait 1,5 tonne de cocaïne. Et ça, c'est l'affaire Top Gun.
L'affaire B52 est une série de Paradiso Média, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiri est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Amy Faconnier sont chargées de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.
Si vous avez aimé B52, découvrez notre nouvelle série Le Sourire Gage dans notre podcast L'Affaire. L'histoire d'une arnaque à la sécurité sociale, l'histoire d'un praticien qui exploite la fragilité de ses patients, d'un homme installé dans les quartiers nord de Marseille, devenu le dentiste le plus riche de France. À bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.